Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez. Chaque jour, vous faire découvrir des idées et derrière ces idées, des hommes et des femmes qui les défendent et qui les portent pour faire changer notre société. Aujourd'hui, c'est d'innovation verte que nous allons parler ensemble car c'est la deuxième édition cette semaine de la Clean Tech Week à Annecy. Pollution, consommation extrême d'énergie. Vous allez voir que rien n'est inéluctable. Elle est née en 1664. Je vous laisse faire les comptes, elle est alsacienne, Cronenbourg et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous développez peut-être des allergies alimentaires et vous hésitez à vous rendre au restaurant, la solution pour sortir déjeuner en toute sécurité, c'est It's Possible, c'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, comme chaque jour, vous avez la parole. Anissa, venez nous dire, tiens, si vous aviez une baguette magique, quelle est la première pollution que vous aimeriez voir disparaître?
Oui, venez nous parler de votre clean tech, à vous, vos souhaits, vos espoirs dans ce domaine. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous pouvez également réagir et poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin jusqu'à 14h au 39-21, le standard, 50 centimes la minute.
La deuxième édition de la Clean Tech Week débute à Annecy cette semaine. Clean comme propre, tech comme technologie. Et vous allez découvrir avec nous que, décidément, rien n'est impossible. Pour accueillir nos invités, à mes côtés, elle est de retour. Bonjour Elisabeth Assayag.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est François Sigel, fondateur de la revue Oui Demain, entre autres, évidemment. Bonjour François.
Bonjour.
Demain, grâce aux inventions que vous allez découvrir avec nous aujourd'hui, demain a presque déjà commencé. Quand on travaille dans une grande entreprise, il y a évidemment, comme ici d'ailleurs, des ordinateurs à chaque étage, dans chaque bureau. Et pour les alimenter, des pièces entières qui sont remplies de serveurs qui consomment énormément d'énergie. Des pièces qu'il faut évidemment à les refroidir pour que tout ne tombe pas en panne. C'est un peu en partant de ce constat, ai-je envie de dire, qu'est née Immersion 4. Bonjour Hassan Gozel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Immersion 4 France, dont le siège social est basé à Rouen, avec un laboratoire du côté d'Annecy, justement. Et je crois que c'est le fondateur d'Immersion 4 qui est venu vous trouver avec cette problématique des data centers. C'est sur la planète, on peut le dire, ce qui consomme le plus d'énergie, ce qui est le plus énergivore.
Exactement. Aujourd'hui, les data centers consomment 5% de la consommation mondiale en termes d'électricité. 626 milliards de litres d'eau gaspillés en 2016, sachant que les deux tiers de la planète ont des problèmes d'eau, forcément, et 3% de gaz à effet de serre.
Alors, il avait travaillé, lui, chez Alcatel. Il s'était aperçu qu'il y avait, notamment aux États-Unis, des sociétés qui faisaient du refroidissement sur ces data centers. C'est donc cette technologie-là qu'il a voulu commencer à explorer, mais en l'améliorant.
Exactement. En fait, aux États-Unis, il y a déjà des concurrents qui font ça depuis une dizaine d'années. Monsieur Koneza a revu un peu le système de refroidissement du tank. Donc, on a revu la formule du fluide qui s'appelle Ice Cloud, qui est notre propriété.
Alors, le tank, pour ceux qui nous écoutent, c'est une sorte de cuve, une sorte de réservoir. Hein.
Exactement. C'est ça. C'est une cuve où on va immerger, en fait, tout type d'électronique. Au lieu de refroidir en fait l'intégralité d'une pièce pour refroidir les serveurs, nous on va refroidir directement les serveurs dans un fluide qu'on immerge.
Donc par exemple, je prends la base de l'ordinateur qui est ici, j'enlève le capot et je vais le plonger dans un liquide.
Alors c'est exactement ça, sauf que nous on va s'intégrer à des serveurs qui sont ultra performants.
On le voit en même temps, je précise, si vous nous suivez sur Europe1.fr.
On va enlever le capot, le carénage du serveur.
On va déshabiller en fait,
tout à fait
le serveur.
On va enlever tout ce qui est ventilateur, radiateur. On va dire au BIOS de fonctionner sans les ventilos. Et on va complètement les immerger dans un fluide. En fait, l'idée, c'est au lieu de refroidir une pièce entière pour refroidir 4 cm de processeur, on va directement refroidir via notre fluide le corps du système.
Ce fluide, évidemment, il est top secret, mais il a une particularité. Parce que normalement, quand je mets mon ordinateur ou la base de mon ordinateur dans quelque chose qui ressemble à de l'eau, c'est censé faire un court-circuit. Et là, non.
Alors, notre fluide, il a plusieurs particularités. Donc déjà, il est propriétaire d'Immersion 4. La deuxième particularité, c'est que c'est un fluide diélectrique. Donc,
ça veut dire que vous l'avez breveté, hein, c'est ça? Vous dites qu'il est propriété, pas encore.
Et aussi, les calories porteurs. Je m'explique. En fait, on va aller récupérer les calories sur les points chauds. Une fois qu'on les a récupérées, paf, il va remonter. Arriver dans le système de refroidissement, on va les récupérer, les ramener dans un point chaud. Et le bâtiment qui va héberger notre solution, on va pouvoir lui fournir du chaud ou du froid. Donc toute l'énergie fatale, on est capable de la récupérer et de la retraiter.
Il a fallu 4 ans 4 ans de recherche pour arriver à optimiser ce ice coulant, hein. C'est ça que vous l'appelez.
Alors non seulement il nous a fallu 4 ans, mais il faut savoir...
Tout a démarré en 2011. Hein.
C'est ça. On a aussi un laboratoire de recherche qui nous permet d'optimiser encore et d'améliorer encore nos solutions. Par exemple, les tanks que nous avons aujourd'hui,
les réservoirs,
on est déjà à la version 4. Et ça va être sans cesse en évolution.
Que dit notre coach de... cette innovation qui est impressionnante,
par ces données de chaleur fatale, hein, c'est bien nommé d'ailleurs. D'abord une première question, vous espérez obtenir quel pourcentage de réduction effectivement de consommation électrique et alors, d'émissions de gaz à effet de serre justement par cette diminution de chaleur, par ce refroidissement?
Alors nous, il faut savoir que l'économie qu'on réalise aujourd'hui, c'est sur le système de refroidissement et pas l'IT. L'IT aujourd'hui, sachant qu'on va enlever les systèmes de ventilation, sur un système data center complet, on va chuter la consommation à peu près de 10%. Par contre, sur tout ce qui est refroidissement du système, on est, ça dépend du dimensionnement, mais on est entre 30 et 80% d'économie d'énergie réelle aujourd'hui.
Oui, parce que comme vous l'avez expliqué, en plus, il y a une sorte d'échangeur qui permet du coup de transformer le chaud en froid, etc.
Exactement. En fait, au lieu de refroidir une pièce entière, on va refroidir uniquement l'intéressé. Et en plus, c'est évolutif. Un gestionnaire de data center, aujourd'hui, va récupérer un tank avec 25 unités à l'intérieur, donc 25 serveurs. Dès lors où ils sont remplis, donc on va refroidir uniquement les 25 serveurs. Tandis qu'un data center complet, que vous avez un serveur, 10 serveurs, ou 50 serveurs, ou 1000 serveurs, il va refroidir l'intégralité. Donc voilà, nous, notre système de refroidissement est maîtrisé, donc gaz à effet de serre, on en a beaucoup moins non plus. Aussi.
Et ça y est, vous avez commencé à livrer. Première unité cette semaine,
alors,
c'est ça en Bretagne
Du coup, la semaine prochaine, mardi, on va livrer... le premier data center qui s'appelle T-Cloud, qui est basé à Vannes, donc on est ultra méga fiers, bien sûr. C'est un 25 unités qui nous ont commandé. Mais il faut savoir qu'on a envoyé des aquariums, donc c'est des modèles d'exposition et des modèles de test à Las Vegas, on en a envoyé à Dubaï, on en a envoyé au Maroc.
Oui, parce que votre idée, c'est vraiment de dupliquer ce qui se fait aujourd'hui en France dans les différents pays.
L'idée, c'est... c'est pour ça que je suis patron de la France, c'est d'animer un réseau français, trouver un modèle économique viable et pouvoir le dupliquer dans le monde entier via des franchises et François. Des distributeurs.
Oui, parce que derrière tout ça, il y a un objectif qui est très dur à tenir, qui est zéro émission carbone 2050. Hein, ça a déjà touché la voiture, l'avion, hein, vous avez vu, avec quelle violence maintenant globalement ces données s'invitent. Et le prochain, c'est évidemment la pollution numérique, qui est absolument colossale. Et on ne va pas y échapper. Quoi. Il n'y a pas que la pollution physique, on va dire, des industries du XXe siècle. Le numérique, évidemment, qui croît, je crois, de 10% chaque année, il va lui aussi, effectivement, être sur la liste des condamnés, ou en tout cas des coupables avant d'être condamnés. Il va donc falloir, c'est
en
pour
tout
ça
cas,
que
oui, ces,
ces
viseur,
expériences
déjà.
Sont très intéressantes.
Alors, il faut savoir, par exemple, si je vous donne 2-3 chiffres, en France, il y a 180 data centers, ça mm-hmm. représente la consommation de la ville de Lyon, hein, c'est énorme.
C'est colossal.
Ça, on ne le sait pas. On sait, par exemple, qu'un mail avec une pièce jointe, c'est la consommation d'une ampoule basse tension pendant une heure. Ça, le grand public ne le sait pas, forcément. Mm-hmm. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre CEO, notre fondateur, s'est attaqué dans le monde des data centers, mais demain, on peut s'imaginer s'attaquer sur tout type d'électronique qui chauffe et qui est énergivore.
On reste ensemble et on continue à parler clean tech aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On souffre tous de la pollution sonore. Et si ce bruit pouvait lui aussi être transformé, le son qui devient du froid, c'est possible. C'est l'idée d'Equium. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui, Raphaël Duchemin, on s'intéresse à ces start-up qui innovent dans la clean tech puisque Annecy accueille la deuxième édition de l'International Clean Tech Week. C'est à partir du 19 et jusqu'au 22 juin, c'est l'actualité pour la clean tech. Et si vous voulez réagir à cette émission, posez vos questions aux invités de Raphaël Duchemin, c'est simple, Twitter avec le hashtag Europe 1, 3921, ça c'est le standard, on vous écoute.
Et vous allez voir que c'est presque une histoire de famille hein, que vous allez découvrir avec nous aujourd'hui. Bonjour Cédric François.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous, vous êtes le président fondateur d'Equium. Alors c'est une start-up qui transforme le son en froid. Ça va intéresser Thomas Caillé, notre réalisateur. Et c'est votre père qui a découvert, je crois, lors de ses recherches en cryogénie mécanique, le phénomène thermo-acoustique que vous allez nous expliquer. Il avait même créé en 2006 un labo indépendant sur ce sujet-là. Racontez-moi.
Alors, en effet, donc il était professeur émérite à Paris 6. Il dirigeait un labo de recherche qui s'appelle le LIMSI à Orsay. Et il faisait de la recherche en cryogénie. Et il se trouve que il y a un phénomène qu'on appelle donc la thermoacoustique, thermo-chaleur, acoustique son, qui se met en place automatiquement, qui est un phénomène naturel, quand il y a un fort gradient de température, une grande différence de température entre ce qu'on peut appeler une source chaude, donc là l'ambiant, et une source froide, donc le moins de 170 de cryogénie. Ça cassait les machines, donc du coup ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? Et puis ensuite, comme tout chercheur, ils ont commencé à s'y intéresser, à voir ce qu'on pouvait en faire, comment on pouvait l'amplifier. Et donc, en partant à la retraite, il a monté ce labo privé pour développer la techno, en fait.
Et alors vous, en parallèle, vous cherchiez à développer une solution écologique et économique. Du coup, j'ai envie de dire, c'était alors, tout trouvé, ou
alors,
presque.
Pas tout à fait à la même époque, mais en effet, parce que je dirigeais une agence de design que j'avais fondée. Je cherchais effectivement à avoir de l'impact vu les problématiques que l'on a. Et chemin faisant, 8 ans après, il arrivait avec ses recherches à un stade pas très loin de l'industrialisation. Et donc je me suis intéressé au sujet et j'ai décidé de créer Equillium en 2017.
Donc racontez-moi, on capture la pollution sonore, enfin le bruit, le son. On le transforme en froid, c'est plus compliqué que ça évidemment.
En fait, le son est un vecteur de conversion de la chaleur en froid. Donc en fait, la chaleur a la particularité physique d'amplifier des ondes acoustiques. Et donc, la chaleur, c'est quoi ? C'est des particules qui bougent dans tous les sens. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les amplifier, on va les mettre en résonance et on va faire du gros son. C'est-à-dire qu'on va avoir 210 décibels dans nos machines. Une fusée de décollage, c'est 180 décibels. Et elles vont se mettre en résonance. On va faire vraiment un accord acoustique dans un tube.
Et ça va créer du froid.
Et en fait, il se trouve que quand vous parlez, ça fait des ondes sonores. Et ça fait de la compression et de la détente. Ça s'échauffe.
Ça monte et ça descend.
Ça monte et ça descend. Et quand ça monte, ça s'échauffe. Et quand ça descend, ça refroidit. C'est le principe de refroidissement de votre frigo, compression détente. Et donc, on va utiliser ce phénomène. C'est les ondes qui vont faire ce travail.
Ça signifie que ça, vous pouvez, par exemple, l'utiliser sur des moteurs pour les refroidir. Vous pouvez l'utiliser sur des groupes industriels, sur des groupes électrogènes.
Oui, absolument. L'idée, c'est de récupérer... on a besoin d'avoir un fort gradient de température pour que ce soit efficace. Donc, gradient, ça veut dire qu'il faut au moins qu'on ait 200 degrés d'écart. Donc, où est-ce qu'on a 200 degrés de chaleur ?
Dans les industries, par exemple.
Dans les industries, à la sortie d'un moteur thermique, de voiture, de groupe électrogène, turbine à gaz, etc.
Sur les bateaux aussi, puisque vous travaillez avec les chantiers navals.
Exactement. Donc, on est en train de monter un projet avec les chantiers de l'Atlantique et Naval Group pour installer à bord cette technologie qui va venir... en complémentarité des systèmes classiques, puisqu'on va utiliser de la chaleur perdue pour produire du froid, et donc on va utiliser moins de fuel, donc être plus efficace.
Elisabeth, on s'aperçoit avec les deux startups qui sont avec nous aujourd'hui hein, que décidément, il y a de plus en plus de startups qui s'investissent dans cette fameuse clean tech. Elle est véritablement en croissance aujourd'hui.
Elle est complètement en croissance. D'ailleurs, les startups de l'environnement enregistrent des levées de fonds records. Les principales bénéficiaires travaillent essentiellement dans les énergies renouvelables. L'année dernière, les énergies renouvelables ont fait bondir les levées de fonds. Il y a un panorama qui a été dressé sur les marchés de la transition énergétique. Et les analystes financiers le disent, plus de 1,5 milliard d'euros ont été investis au capital des entreprises de la clean tech, quasiment 70% de plus qu'en 2017.
Qu'est-ce que vous en dites, François ?
Plein de questions, évidemment.
Je m'en doute, je vous connais.
Plein de questions. La première, qui est le destinataire, je dirais globalement, de ce froid qui est créé ? Est-ce que c'est totalement, on va dire, écological friendly J'ai plutôt tendance à penser que oui, mais globalement, vous le direz beaucoup mieux que moi. Mais je pense qu'il faut une grosse source de chaleur, ce que vous avez dit. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ce froid On l'utilise, on le capture, on le transmet, voilà.
Alors, Cédric François.
Ouais, 3 sources de chaleur possibles, des fumées de moteur, des fumées d'industrie ou du solaire thermique. Évidemment, il faut un lieu où on ait à la fois de la chaleur et un besoin en froid, parce qu'il faut on ne peut pas le stocker, le froid, donc il faut pouvoir l'utiliser sur place. Donc, en effet, le cas du bateau est un cas idéal, mais il y a aussi l'idée, dans toutes les situations qu'on va appeler off-grid, donc non raccordées à des réseaux, l'idée de refroidir des groupes électrogènes dans des pays chauds ou des turbines à gaz, pour leur redonner de l'efficacité.
Ça, c'est le prototype sur lequel vous êtes en train de travailler.
Absolument. Donc, on démarre cette semaine dans la région de Palaiseau et qu'on va aller installer à Nantes après où on s'installe.
On reste ensemble et on continue à regarder ce qui se passe en ce moment dans la clean tech. À tout de suite.
Il est 13h19.
Merci. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si on pouvait équiper nos véhicules de filtres pour moins polluer, c'est ce que fait Airlove à grande échelle. À tout de suite. La France bouge sur Europe 1. Aujourd'hui, Raphaël Duchemin, vous nous faites découvrir les startups qui innovent dans le domaine de la clean tech. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas, c'est maintenant que vous pouvez les poser au 3921, le standard d'Europe 1. Et sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, on lit vos questions, vos réactions et vos témoignages, Raphaël.
Et s'il y a une pollution dont tout le monde se plaint, c'est probablement celle produite évidemment par les voitures. Or, aujourd'hui, on peut filtrer cette pollution émise par nos pots d'échappement. Les règles sont même de plus en plus strictes. Bonjour Patrick Cacérès.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Airlove, avec une petite apostrophe hein, oui. À la fin. Airlove, c'est une start-up qui a été fondée en 2008, que vous avez reprise en 2017. Je crois que c'est un ingénieur motoriste chez Alpine Renault qui l'a créé au départ.
Alors,
il a déposé un brevet pour réduire le rejet de particules dans l'atmosphère, réduire de moitié.
C'est ça.
De moitié, mais comment est-ce qu'il fait ?
Alors en fait, c'est l'innovation de Monsieur Baron. Et d'ailleurs, votre émission est Jackie Baron est un hommage parce que notre fondateur est décédé il y a quelques semaines d'une maladie dont les causes étaient probablement la pollution. Alors que c'est un homme qui va sauver des milliers de vies avec le produit qu'il nous laisse. Donc je suis vraiment ravi de cette invitation déjà pour ça. La deuxième chose, effectivement, il a mis au point en fait un produit qui permet trois choses et un brevet qui permet d'additionner des aimants sans qu'ils se dépolarisent. D'orienter les champs magnétiques pour qu'ils soient efficaces et d'avoir un temps d'exposition sur les carburants suffisamment long pour que ça soit véritablement efficace et qu'on obtienne ces fameux 50%. Alors ça va de 30 à 80%, mm-hmm. C'est pour ça qu'on prend une position moyenne à 50% du rejet de ces fameuses hydrocarburants brûlés, ces particules qui aujourd'hui tuent beaucoup de monde en France. De l'ordre de 49 000 personnes.
Alors expliquez-moi, tout ça tient, ce système d'aimant dont vous nous avez parlé, tient oui. Dans un cylindre. Il
exact.
Est là avec nous sur Europe1.fr. Alors il y en a un petit et un gros.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait avec ces cylindres ? On les met dans nos véhicules, on peut aller voir
exact.
Notre garagiste, on
exact.
Peut acheter le cylindre et équiper notre voiture.
Alors effectivement, donc, c'est un produit qui aujourd'hui est une solution immédiate, pragmatique, production déverminée. Donc aujourd'hui, il y en a à peu près 600 d'installés. Tant sur des véhicules légers que des véhicules utilitaires, que des poids lourds, des bennes à ordures ménagères, mais aussi des chaudières. Alors pourquoi il y en a un petit, pourquoi il y en a un grand ? Parce que le petit, ben c'est pour les petites voitures.
Et ça,
le
c'est
gros,
pour,
c'est pour les
c'est
camions
pour les
ou
camions.
Les très grosses chaudières,
ouais.
Par exemple, pour des copropriétés d'immeubles où il y a 150, 200, 300 appartements.
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Il y a une sorte de système qui permet justement de capturer tout ce qui ne doit pas être restitué, qui est mauvais pour notre santé ?
Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que quand on soumet un carburant à un champ magnétique, qu'est-ce qui se passe ? On va affaiblir les liaisons, je vous fais court, carbone-hydrogène, mm-hmm. Mais on va surtout favoriser, à l'arrivée dans le moteur, le mariage avec l'oxygène. Et donc, on va avoir une meilleure combustion. Cette combustion que l'on a avec l'atome de carbone qui va faire qu'on va polluer moins et consommer moins, on l'a avec le toluène, le benzène, qui sont ce que l'on retrouve dans ces particules.
Vous avez dit que vous travaillez déjà, puisque vous en avez vendu 600, avec, avec plusieurs villes. Hein,
oui.
Je crois la ville de Lyon, la ville de Bastia. Vous équipez des flottes
Alors, on a commencé par le commencement, c'est-à-dire qu'on cherche à se faire nos armes, une réputation. On a commencé par des problématiques qu'ont les collectivités locales et les villes, c'est-à-dire de polluer moins et de faire des économies de carburant. Effectivement, donc on a équipé, SUS Cita a pu capter le marché du recueillement des déchets dans la ville grâce à la mise en place sur leurs camions de procédés Airlove. Et c'est vrai que dans l'évaluation de l'appel d'offres,
là, vous parlez de la ville de Lyon.
Exactement, les notes ont été bonnes sur le volet développement durable.
Donc,
nous faisons la même chose.
Idem avec Bastia.
Avec Bastia, Bruxelles, Tournai. Donc, on a commencé par là où ça fait mal, c'est-à-dire
ouais.
Les bennes ordures ménagères qui consomment beaucoup, plus de 90 litres au 100 et qui rejettent beaucoup de particules dans l'atmosphère.
Et vous êtes en train de travailler sur l'industrialisation, vous aussi, de ce procédé.
Alors, effectivement, donc on a déverminé le process industriel aujourd'hui. Donc, on est capable de déployer cette technologie. On intéresse donc effectivement les villes parce que les maires ont aujourd'hui un besoin d'être exemplaires, c'est-à-dire d'équiper ce qui dépend d'eux, c'est-à-dire leur flotte. Et ça peut les aider en deuxième rideau à être conformes aux nouvelles dispositions de la loi Macron, c'est-à-dire avec les zones de faible émission qui sont introduites en France pour répondre à cet objectif ambitieux.
Elisabeth, on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se mettent au service du climat. Je crois que vous en avez trouvé beaucoup, et des Françaises, hein, notamment.
Oui, alors c'est compliqué hein, d'en choisir une plutôt qu'une autre. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Par exemple, pour économiser de l'eau, de l'électricité, vous avez Boost It. Cette start-up permet de diviser par deux sa facture énergétique et son impact sur l'environnement grâce à la chaudière gaz thermodynamique. Ça se passe à Vénissieux. Vous avez aussi l'entreprise pour recycler les déchets, l'entreprise Néolite, qui transforme les ordures ménagères non recyclables en granulats pour routes et béton. Ça se passe à Palaiseau. Voilà, il y en a énormément. Je peux vous faire une liste entière. Il y en a même du côté de la Corse, Raphaël. Oui. Hein, vous avez Stepsol qui développe des petites installations solaires couplées à du stockage hydraulique qui permet de fournir une électricité renouvelable décarbonée de jour comme de nuit dans les territoires, dans les zones rurales ou encore dans les zones isolées.
Ouais, et Néolite sera bientôt avec nous hein, parce qu'on va faire une émission sur la route justement. François, qu'est-ce que vous inspire le procédé Herlove ?
Alors, deux questions. C'est est-ce que... Bon, déjà, c'est pas le moteur à eau, c'est pas le moteur à air. C'est généralement, l'automobile est forte, hein, je dirais, de promesses. Parce que là, c'est quand même pas rien. Si vous voulez diminuer de deux par deux les particules nocives, globalement, qui ont quand même coûté à l'industrie automobile, le moteur thermique et le moteur diesel, c'est pas rien. Alors, pourquoi est-ce que les constructeurs ne se précipite pas tout de suite sur votre invention, parce que c'est vrai que l'air qu'on respire va devenir un des enjeux de civilisation les plus importants. Maintenant, il y a des capteurs qui existent et on va pouvoir choisir la rue de Paris, la ville, des capteurs individuels dans lesquels on va pouvoir
se
déplacer en fonction
de... Mais là, on peut agir carrément sur un véhicule qui aujourd'hui est considéré comme non propre et qui
exact.
Peut le devenir
bah
davantage.
Oui, c'est exact.
C'est-à-dire, plus le véhicule est usagé aujourd'hui, j'allais dire, donc on se retrouve avec des vignettes critères 5, 6... Avec l'installation de notre procédé, on va rentrer dans la plaque et être au niveau des critères 3. Maintenant, pourquoi les constructeurs ne se sont pas encore emparés de cette innovation ? J'allais dire tant mieux, parce qu'on n'était pas prêts. La deuxième, c'est que quand on a rencontré le monde automobile, on nous a expliqué que c'était des motoristes et que 100% de leur budget d'investissement, recherche et développement, était consacré à répondre aux objectifs de devenir Euro 4, Euro 5, Euro 6 aujourd'hui et qu'ils n'étaient pas sur les périphériques. Et nous faisons partie de ces périphériques. Alors c'est un avantage, c'est qu'on peut se monter aujourd'hui, pas en première monte comme on dit, mais sur des véhicules que l'on a tous ou sur nos chaudières par exemple.
On reste ensemble et on continue à parler cleantech dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h29.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, 39-21 et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge.
La France bouge sur Europa. Aujourd'hui, Raphaël Duchemin, nous découvrons les startups qui innovent dans la clean tech.
Nous sommes avec Hassan Gozel, président de la filiale France d'Immersion 4, Cédric François, président fondateur d'Equium, et Patrick Caceres, président d'Herlove, Elisabeth Assayagela, bien sûr. Et notre coach, c'est François Sigel, fondateur notamment de la revue Oui Demain. Je crois qu'on a déjà une question qui concerne la pollution lumineuse.
Alors oui, on en a plusieurs, des questions qui arrivent et qui vous sont adressées. Celle-ci est de Shrezi. Quelle solution innovante contre les différentes formes de pollution lumineuse en agglomération ?
Alors, quelqu'un a la réponse ? Non, moi j'ai pensé, parce qu'on les a reçus ici, c'est les start-upeuses d'Aglaé par exemple. Hein. On est en train d'essayer de débrancher finalement tout ce qui est lumière électrique et créer de nouvelles sources de lumière, comme par exemple cette solution développée par Aglaé, des fleurs dans lesquelles elle vient mettre un produit qu'elle a breveté, qu'elle a inventé et qui permet une sorte de lumière naturelle. C'est ça qui peut-être demain éclairera en tout cas nos villes et nos parcs.
On a d'autres questions. Elles sont nombreuses les questions arrivées sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Marc vous demande à tous les trois, quand on fait partie de la clean tech comme vous, est-ce qu'on se sent investi d'une mission pour sauver le monde ?
Ah, qui veut répondre ? Cédric ?
Oui, au départ on part avec une mission pour sauver le monde. Après, la réalité fait que on se lève tous les matins pour travailler comme tous les jours.
On a conscience que ça a un impact.
Ça a un sens.
Ça a un sens profond. On m'a souvent reproché d'ailleurs d'être trop à chercher le sens et pas assez dans le business. donc là, je switch pour être beaucoup plus business, mais je garde cet objectif. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté une entreprise très lucrative pour aller dans celle-ci qui... potentiellement sera très lucratif, mais qui aujourd'hui
c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, ce sera lucratif pour vous, mais ce sera aussi bon pour nous et pour la planète.
On a une question alors qui, je pense, vous est adressée, Hassan. C'est Iliès qui vous la pose avec le hashtag Europe 1, parce que vous refroidissez les centres de données, on l'a bien compris, pour faire simple. Alors, il vous demande, que peuvent faire les citoyens? Est-ce qu'on doit arrêter d'envoyer des emails?
Alors, cette question, il est évident qu'aujourd'hui... si j'envoie pas de mail et je prends mon diesel pour aller à la poste et poster mon courrier,
ouais,
c'est...
ça revient au même.
Non,
c'est pire.
C'est pire.
Ouais, il faut qu'il y ait un cercle vertueux.
Exactement. Il faut continuer à envoyer des mails, mais par contre, pourquoi mettre en copie tout le monde?
Et puis nettoyer intéressé. La boîte aussi de temps
exactement,
en temps.
De
ah,
temps
faut la
temps.
Vider la boîte mail.
Et il faut de temps en temps, bien sûr, parce qu'il faut savoir que ça tourne H24, 7 jours sur 7. Une photo que vous prenez de vos enfants, ça tourne 7 jours sur 7.
On s'en rend pas compte.
Oui.
Non, la réponse à cette question est totalement pertinente. Et ce que je disais tout à l'heure, on n'échappera pas si on veut arriver à des objectifs effectivement de réduction d'émissions, de réduire notre consommation numérique. C'est-à-dire qu'il va falloir, comme une vidéo très amusante le dit sur Internet, renoncer au collier connecté du chien parce que c'est pas totalement au frigo connecté. Globalement, alors il paraît que Netflix, par exemple, c'est une catastrophe. C'est 13% de la base de la bande passante mondiale d'Internet. Donc voilà, il va falloir de temps en temps faire des choix, si on veut, bien évidemment. Hein, mais ça, tout ça, c'est un gros mouvement qui est en cours. Et bien sûr, la photo du petit dernier qui fait quatre fois le tour du monde sur Facebook, c'est peut-être pas totalement indispensable.
Patrick Caceres, oui. Question pour vous, parce qu'on vous l'a posé tout à l'heure pendant qu'on n'était pas à l'antenne. Oui. Ça, je peux aller chez mon garagiste demain et le faire poser, il va savoir le faire. Ça se met où exactement?
Absolument. Donc ça se met sur la durite d'admission de l'essence dans le moteur, au plus près du moteur. Puisque la transformation et l'amélioration du carburant que nous faisons est éphémère et donc il faut être très proche du moteur.
Elisabeth, je voudrais qu'on termine parce qu'il y a de plus en plus de pépinières, d'incubateurs qui aident les startups justement à se financer dans ce domaine de la clean tech.
Absolument, les startups vertes ou propres ont des structures maintenant qui sont adaptées pour qu'elles puissent démarrer leur activité. J'en ai sélectionné quelques-unes. Vous avez à Paris Agoranov, c'est un incubateur public qui a été fondé par plusieurs universités. Elle accueille des entreprises donc dans les secteurs des clean tech, de la santé aussi. Elle met à leur disposition plus de 2000 mètres carrés d'infrastructures. Vous avez aussi Cap Alpha qui est dédié aux entreprises, notamment dans le domaine des sciences du vivant, dans l'ingénierie. Elle se trouve près de Montpellier. Ou encore Cleantech Booster, c'est un accélérateur de la toute nouvelle Cleantech Valley qui est située entre le pont du Gard et la vallée du Rhône. Elle propose là aussi un accompagnement stratégique, logistique, financier et tous les secteurs propres sont concernés.
Merci à tous les trois d'être venus participer à cette émission et merci aussi pour ce que vous faites pour la planète aujourd'hui et demain.
Merci.
Merci à vous.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Restez avec nous, un petit moment musical et juste après, si je vous dis 1664, ça
Bière.
Vous parle forcément, c'est son année de naissance, Cronenbourg et l'entreprise qui va bien, merci.
Europe 1.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, vous écoutez Raphaël Duchemin. La France bouge et il y a dans cette France qui bouge des entreprises qui vont bien. Celle d'aujourd'hui, écoutez bien, elle a 355 ans. Elle va vous accompagner une bonne partie de l'été et elle est à consommer avec modération, Raphaël.
Oui, parce que cette entreprise, c'est Cronenbourg. Joao Becassis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de ce brasseur alsacien qui a fêté la semaine dernière, ses 355 ans, parce que c'est en 1664 que le fondateur, un certain Jérôme Hatt, a eu son certificat de brasseur. C'est comme ça que tout démarre au départ. On est à Strasbourg.
Tout démarre à Strasbourg, en Alsace, effectivement, en juin de 1664, plus précisément au Canon.
Place du Corbeau, c'est ça?
Où on est par ailleurs toujours présent. Et après, on a quand même beaucoup voyagé dans ces 355 ans. On a passé au quartier de Cronenbourg.
Oui, c'est ça qui a donné le nom. Alors, Cronenbourg avec un C à Strasbourg, et c'est devenu Cronenbourg avec un K beaucoup plus tard, en 1947, c'est ça?
Le quartier, en fait, porte son nom Cronenbourg avec un C, mais un des Hatt a décidé que ça faisait beaucoup plus brasseur. de s'appeler Cronenbourg, de l'écrire avec un K, et c'est un peu, ça fait partie de notre histoire.
La famille Hatt, dont vous parlez, elle est restée là très tard finalement, hein, parce qu'on est parti en 1664 et elle a passé la main, si j'ose dire, dans les années 60. C'est quand même
1970.
Très rare. 1970. Ouais. Qu'est-ce qui explique cette longévité
Bon, j'ai le plaisir de faire le métier de brasseur, si je peux me permettre de dire comme ça, depuis presque 10 ans. Et une fois qu'on commence, c'est une profession très, très attachante. Les maîtres brasseurs, la bière, la convivialité. Par ailleurs, les Hatt restent toujours en contact avec nous. On a soutenu, il y a un an, le lancement d'un livre que la famille a voulu organiser.
Qui est là, Cronenbourg, depuis 1664, hein, pour les 350 ans.
Exactement. Non, et après, on a fait un deuxième livre, avec la famille. Et je pense que ça, c'est une des histoires, des belles histoires de brasserie en Europe. Mais par ailleurs, si on pense à nos liens avec Carlsberg, c'est pareil. C'est des fondateurs qui ont resté liés pendant très longtemps et que finalement, on laissait à une fondation la brasserie.
Alors, vous parlez de Carlsberg parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est Carlsberg. Ce sont des Danois qui ont repris Cronenbourg, mais avec toujours l'idée de laisser Cronenbourg en France, de faire en sorte que l'identité française soit maintenue, c'est-à-dire que tout est fabriqué ici, chez nous. Que ce soit Cronenbourg, que ce soit 1664, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, un plus avec ce fait que Cronenbourg et 1664, les deux marques, sont origine France garantie. Et cette origine France garantie vient du fait qu'on brasse toujours en Alsace. On brasse aujourd'hui, depuis 50 ans, à Obernai. On est assis sur la nappe phréatique rhénane. On est à côté des champs de céréales d'Alsace et de Lorraine. 97% de nos céréales, des céréales qu'on achète, viennent d'Alsace et de Lorraine. On est à côté du lycée agricole et du comptoir agricole. 95% du houblon en France vient aussi de l'Alsace. Nos bouteilles viennent des Vosges par train.
Alors, vous parlez des bouteilles, c'est intéressant aussi parce que je crois que Cronenbourg a été précurseur sur pas mal de produits qu'on connaît tous, hein, que ce soit la petite canette, la première boîte en métal et aussi le pack de bière.
Le premier six-pack, si on peut dire comme ça, a été lancé par Cronenbourg, effectivement.
Une question peut-être de notre coach, François Sigel.
Cronenbourg, c'est vrai que c'est une marque qui a une attache des racines, quoi. Même si je crois que vous n'aimez pas trop qu'on fasse référence à ce passé, c'était la croc, quoi. La croc, c'était la bière des camionneurs, je dirais des campings. Puis après, l'image de marque a évolué. Et j'ai l'impression, j'ai vu ça dans un article qui est passé dans Le Monde il y a pas longtemps, que maintenant, ce sont trois femmes, hein, qui président aux destinées, on va dire, culturelles, techniques, je dirais industrielles de l'entreprise.
C'est tout à fait le cas. Vous avez vu cet week-end nos trois maîtres brasseuses qui sont elles qui, jour à jour, prennent soin de la qualité, de l'art du brassage chez nous. Mais on est toujours très attaché à l'accro, comme vous dites. On est attaché à toutes nos marques, à celles qui sont plus jeunes, comme c'est le cas de Turtle Twist, par exemple. Mais on reste toujours très, très attaché. Et si on l'appelle par le petit nom, Cro, ou par son nom, Cronenbourg, c'est pareil avec 1664 au 16. On reste toujours très attaché.
Et vous êtes très attaché aussi à faire du développement durable. Ça, c'est quelque chose qui compte aujourd'hui dans vos marques
Aujourd'hui, oui. Mais c'était le cas toujours. Et en fait, on peut dire que les Hatt, quand ils ont décidé de s'installer à Obernai, même quand les gens ne parlaient pas de développement durable, c'était tout à fait un acte de développement durable. Comme je disais, on est vraiment inscrit au centre d'une filière agroalimentaire. Aujourd'hui, non seulement les bouteilles arrivent par train, on a 14 km de voies ferrées dans le site de la brasserie. 80% de notre transport est fait en train pour distribuer sur toute la France. On a depuis le début à Obernai une station d'épuration d'eau. Obernai, c'est une ville très très sympa que je vous invite à visiter, de 2000 habitants. Mais notre station d'épuration d'eau pourrait servir...
Et c'est 650 personnes qui travaillent à Obernai sur le site, sur les 1200 salariés que compte Cronenbourg dans la région et en France. 150 à Boulogne, 350 qui sont sur le terrain. Ouais. Cronenbourg, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Joao Abécassis d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup de votre invitation.
Il est 13h47.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Aller déjeuner ou dîner au restaurant quand on a une allergie alimentaire, c'est un vrai casse-tête. La solution s'appelle It's Possible. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et tous les jours juste avant 14h. Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour et aujourd'hui, elle va faire plaisir à toutes les personnes qui ont des allergies alimentaires.
Vous souffrez d'allergies, effectivement, ou vous suivez un régime alimentaire particulier. Cela peut être compliqué de trouver un restaurant qui vous convienne. Elisabeth, il existe une solution. Elle s'appelle It's Possible.
Et oui, parce que les allergies ainsi que les intolérances dues à certains composants industriels ont atteint 10% chez les Français. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 70, on était à peine 1% de personnes intolérantes ou qui avaient des allergies alimentaires. Alors, It's Possible, c'est une application qui vous permet de trouver des restaurants adaptés à vos contraintes alimentaires le plus proche de chez vous, que ce soit pour les allergies, les intolérances ou les végétariens ou encore les véganes. Bonjour Nicolas Schmoll.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de It's Possible. Alors vous, je crois que vous êtes directement concerné parce que
Exactement.
Vous-même vous souffrez d'allergies alimentaires.
Exactement,
je crois que vous êtes allergique à l'arachide.
Je suis allergique aux fruits à coque et aux poissons.
Voilà.
Et ces allergies sévères, donc choc anaphylactique direct. Choc anaphylactique
direct, exactement. Donc épipène, adrénaline, etc.
Exactement.
C'est comme ça que l'idée est née ?
Exactement. J'ai toujours eu peur d'aller au restaurant et j'ai rencontré Louise, qui elle, adore le restaurant. Exactement. Et on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose, il faut que tu puisses te rendre au restaurant toute sérénité. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer It's Possible avec elle.
Alors comment ça se passe ? Vous êtes allé voir chaque restaurant et vous leur avez demandé la carte, le détail, comment avez-vous fait ?
D'une part, il y a ça, aller voir les restaurants. Et leur demander la carte, ce qu'il y a dans les plats. Et de l'autre côté, il y a les utilisateurs qui sont aussi très actifs.
Donc c'est collaboratif.
C'est collaboratif, exactement. Et donc dès qu'ils seront dans un restaurant, quelqu'un qui ne mange pas de gluten va dire « je ne mange pas de gluten, je me suis rendu dans ce restaurant, ça s'est super bien passé et ça va aider d'autres personnes ».
Et c'est comme ça que le nombre de restaurants s'agrandit. Donc
exactement.
Comment ça fonctionne ? Je crois que vous avez plus de 40 filtres pour sélectionner.
On a plus de 40 filtres.
Comment
Effectivement,
ça marche ?
On a les colorants alimentaires, on a énormément de choses. Bah, tout simplement, il y a le restaurant qui peut s'inscrire et indiquer sa carte sur l'application. Donc ça veut dire qu'il va vraiment dérouler ses plats et mettre les allergènes et les régimes alimentaires auxquels il s'adapte. Et de l'autre côté, il y a l'utilisateur qui va tout simplement dire « je me suis rendu dans ce restaurant, ce plat était sans gluten et ça s'est super bien passé ». Et tout ça, ça va alimenter une base de données qui va aider tout le monde.
Vous avez eu des retours de restaurateurs ?
Oui, on a beaucoup de retours. Au début, on s'attendait à un peu de réticence, mais en fait, pas du tout. Et on se rend compte que les restaurateurs sont super réceptifs, qui sont conscients de tout ça. Et nous, notre objectif, c'est vraiment pas de on n'est pas des inspecteurs.
Pas pour les juger, mais au contraire, pour améliorer
et pour mettre
l'expérience
du client. Typiquement, une petite brasserie qui sert pas mal de viande va proposer un plat végétalien. Ça va faire super plaisir aux personnes qui sont végétariennes et ça va leur permettre que tout le monde se rende au restaurant en toute sérénité.
Le coach, François ?
J'ai téléchargé l'application, je t'ai regardé pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait. J'avais plutôt l'impression, mais je dois commettre une erreur, que ça s'adresse quand même principalement quand même aux végétariens et plutôt véganes. Et que les autres, si on ne coche pas les cases végétariens et véganes, on a du mal à trouver les restaurants. Par exemple, je ne sais pas si je veux un restaurant chinois qui ne propose pas de glutamate, parce que le glutamate, c'est une horreur pour la santé absolue. Donc, je veux dire, comment je fais ? Parce que c'est là que votre application, quand elle fonctionnera totalement, sera passionnante.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on est en train de démarcher beaucoup de restaurants pour cela. Mais c'est vrai que la plupart des restaurants maintenant proposent des plats végétariens, végétaliens et sans gluten. C'est les trois œuvres qui sont privilégiées par les restaurants. Et les allergènes alimentaires, c'est en train d'arriver dans les consciences.
C'est doucement.
C'est doucement, exactement.
Vous vous développez depuis quand, Nicolas ?
Alors, on la développe depuis 2016. Et l'application est sortie officiellement en 2017.
Et combien de restaurants référencés aujourd'hui ?
On a environ 500 restaurants référencés.
Sur Paris uniquement ?
Sur toute la France.
Sur toute la France.
Et, voilà, on se développe assez rapidement. Il y a une personne qui est à temps plein maintenant. Donc,
ça progresse. Juste une dernière question, c'est gratuit ?
Oui, c'est gratuit.
C'est gratuit et ça s'appelle It's Possible. It's comme manger, E-A-T-S,
Exactement.
Possible évidemment. voilà, comme ça vous pouvez aller au restaurant en toute sérénité. Merci d'être venu nous présenter cette solution.
Merci
à François qui était notre coach aujourd'hui.
Avec plaisir.
Nous, on part pour le Bourget demain.
Très
Elisabeth.
Bien, à demain Raphaël. Dans un instant, Christophe Ondelat pour Ondelat raconte. Christophe va vous raconter une affaire criminelle des années 40 dont le décor était un château en Dordogne. L'affaire Henri Girard, c'est dans un instant sur Europe 1.